France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Pourquoi changer de prénom? C'est notre thème ce matin. Qu'est-ce qui pousse un individu à s'appeler Pierre plutôt que Jacques, Nathalie plutôt que Monique, Léa plutôt que Leïla, Emma plutôt que Catherine, Pierre plutôt que Mohamed, Léo plutôt que Jean-Philippe? Notre prénom raconte notre identité, mais il dit aussi notre profond besoin d'authenticité. Un prénom qui dit ce que nous sommes en vérité, comme l'écrit notre invité, le sociologue Baptiste Coulmont, changer pour être soi-même ou régler ce qu'il appelle un conflit de papier. Vous êtes donc près de 3000 à demander chaque année un changement de prénom, mais plus largement, cette question interroge sur les liens que nous entretenons avec lui. Nous fait-il honte? Correspond-il à un traumatisme familial? Correspond-il à notre tête, à notre genre, à notre physique, à notre âge? Par exemple, s'appeler Jean-Michel ou Georgette quand on est un ado de 2024 n'est pas forcément simple à porter. Et puis nous ferons un focus sur les Kevin. Avez-vous eu honte de vous prénommer ainsi? Cela vous a-t-il posé des problèmes dans le monde du travail? Focus également sur les Brandon ou les Jessica, socialement connotés qui inspirent parfois du mépris social. Et puis enfin, nous vous donnerons quelques conseils pour ne pas trop vous tromper dans le choix d'un prénom pour votre futur enfant. Ce matin, j'attends toutes vos questions sur les prénoms et la volonté d'en changer ou pas, au standard et sur WhatsApp au 01 45 24 7000, en laissant message et note vocale sur l'appli France Inter, sans oublier la page Facebook de Grand Bien vous fasse. Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali.
Vous connaissez les caractères des Juliens?
Pas du tout.
L'ambition, la force, la passion, l'habileté et la détermination.
Eh ben, faites-vous une idée alors.
Quel est le menu de votre chronique Ma vie de parent?
Eh ben, justement, on va se demander comment ne pas se tromper de prénom à la naissance de nos enfants pour éviter d'avoir les forcer de changer leur prénom plus tard.
À tout à l'heure. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Regarde Margot, t'as un petit copain là.
Oh génial.
Il s'appelle comment le Wuchou?
L'enfant.
L'enfant.
Non mais le prénom.
Non.
Non.
C'est... Ouais. Il a pas de prénom?
Bah non, je lui ai pas collé une étiquette sur le front à la naissance, non.
Ah.
Parce que si tu regardes bien, le prénom c'est le premier fichage en fait. Moi j'ai envie qu'il le choisisse son nom. Mm-hmm. C'est sa vie, il m'appartient pas. Parce que tout le monde a un nom, il faut juste le rencontrer, il faut être attentif, il faut s'autoriser à rêver. Mm. Tu l'as rencontré ton prénom? Moi je m'appelle Gaïa.
Moi?
Ouais.
Moi, c'est Pomme de Terre. J'ai rencontré mon prénom dans un resto.
Lui, c'est Victor, voilà. Ouais. Et moi, c'est Jeanne.
Jeanne, ouais. Bienvenue.
Merci.
Extrait de Problemos d'Éric Judor en 2017. Bonjour Baptiste Coulmont.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sociologie à l'École normale supérieure Paris-Saclay, sans doute l'un des meilleurs spécialistes de la sociologie des prénoms, et vous avez notamment publié « Changer de prénom de l'identité à l'authenticité » publié en 2016 aux Presses universitaires de Lyon. Bonjour Claire Tabarly-Perrin.
Bonjour.
Avec Stéphanie Rapoport, vous avez publié l'officiel des prénoms. Vous le publiez, c'est la nouvelle édition chez First. Baptiste Coulmont, toutes nos interactions sociales passent par le prénom. Nous portons un prénom pour la vie et il est difficile d'en changer. Tiens, je prends l'exemple de notre responsable de l'habillage antenne ici à France Inter, la formidable Anne-Sophie Ladonne. Elle me disait hier qu'elle n'aimait pas son prénom, mais que pour rien au monde, elle n'en changerait car cela fait partie de son identité.
Oui, c'est pas facile de changer de prénom. Mmh. Alors c'est plus facile depuis 2017, hein, depuis que j'ai écrit l'ouvrage, mais ça demande non seulement une décision de l'officier d'état civil, mais à changer tous ses papiers précédents en fait. Donc il faut changer ses diplômes ou montrer que on associe le nouvel état civil à l'ancien diplôme, etc. Donc c'est on n'y échappe pas au prénom. Qu'on souhaite changer. En tout cas, on n'y échappe pas facilement.
En tout cas, le prénom revêt évidemment une importance capitale dans nos vies. Ce n'est pas un simple identifiant individuel. Il joue un rôle de signal.
Mmh. Parce que non seulement il sert à identifier avec le nom de famille, mais les prénoms sont connotés. Ils ont des connotations, donc ils nous rattachent à des groupes d'âge, de genre, ethniques, religieux, etc. qui parfois sont flous parce que certains pensent que le prénom, pour eux, la connotation, c'est celle-là. Pour d'autres, c'est autre chose. Mais il ne fait pas donc qu'identifier, il connote aussi.
J'aimerais qu'on revienne au sous-titre de votre livre « Changer de prénom, de l'identité à l'authenticité. Changer de prénom, ce n'est pas seulement répondre à la question « qui suis-je ?», mais à la question « qui suis-je en vérité ?»
Oui, parce qu'en fait, les gens savent qui ils sont, mais par exemple, votre collègue Anne-Sophie, si à un moment elle avait décidé de s'appeler Chantal, bon, ça pose aucun problème au collègue.
C'est peu probable.
Mais à un moment, on lui dit, mais c'est quoi ton vrai prénom? Parce que on pense, en France, hein, c'est pas le cas dans tous les pays, que le vrai prénom, c'est celui que les parents ont donné à la naissance et qui a été inscrit à l'état civil. Et les gens qui cherchent à changer de prénom disent, mais non, mon vrai prénom, celui que je veux prendre, c'est celui par lequel les gens me connaissent, ou alors c'est celui par lequel j'ai demandé à être connu. Donc c'était pas une question d'identité, de problème d'identité, c'était une question de lutte entre l'État qui cherche à assurer sa vérité et les individus qui cherchent à assurer la leur.
C'est ce que vous appelez le conflit de papier.
Les conflits de papier, c'est qu'en fait on est entouré de papier. Vous regardez votre portefeuille, vous avez des cartes partout, etc. Et parfois, ils sont en conflit parce que votre prénom de naissance, il est inscrit sur certains papiers, mais d'autres, par exemple votre carte d'abonnement MK2 ou Yves Rocher, désolé pour les marques, c'est un autre prénom. Ou votre diplôme, pour une erreur administrative, c'est un autre prénom. Ou votre baptême, parce que l'église, parfois, où les parents demandent à baptiser l'enfant sous un autre prénom, c'est autre chose. Donc, parfois, il y a des conflits de papier et le cas le plus étrange que j'ai eu, c'est quelqu'un qui, je ne sais plus si elle, oui, elle s'appelait Samira, mais elle avait toujours été connue sous le prénom de Monique. Elle cotise sous le prénom de Monique et au moment où elle cherche à avoir sa retraite, l'État lui dit nous on connaît Monique, mais on ne connaît pas Samira. Donc changer de prénom, elle ne voulait pas changer de prénom, elle était contente d'avoir un prénom de papier et un prénom du quotidien. Mais voilà, on vit dans une. En fait, notre identité de papier est très collante et très solide. C'est un vêtement qu'on porte.
Alors, en règle générale, ce sont les parents qui choisissent le prénom. Claire Tabarly-Perrin, quels sont leurs principaux critères de choix?
Alors, les prénoms, les parents ont bien compris depuis quelques décennies que le prénom est un enjeu. On vient de le comprendre. Et donc, en fait, les prénoms, les parents, ce qu'ils veulent, c'est l'enfant est un projet unique en quelque sorte. Donc, ils veulent un prénom unique pour l'enfant. Donc, on a parlé de porter un prénom. Concrètement, les parents, ils vont aller chercher dans un dressing. Donc, ils veulent un prénom un peu classique, indémodable. Ils vont aller chercher une petite robe noire. Donc, ça va être Charlotte, ça va être Édouard.
Louise, voilà. Paul.
Alors, Louise Paul, ça va être le prénom que moi, je qualifierais un peu de blue jean. C'est-à-dire que c'est le prénom que vous pouvez porter tous les jours, qui est pas forcément classique, le prénom confortable. Donc, ça va être Louise, ça va être Samuel. Après, vous avez le prénom vintage, donc là, vous allez chercher en friperie. Donc, vous allez prendre...
Marcel.
Voilà, exactement. Marcel, Gaston, absolument, Ida. Et puis après, vous avez le prénom do it yourself. Alors là, il y en a de plus en plus. Donc là, c'est vraiment le prénom, je vais le créer. Donc, je vais faire des combinaisons, je vais changer l'orthographe, je vais... Et souvent, la plupart du temps, c'est le prénom fast fashion. C'est-à-dire que vous allez chercher le sarou à la petite fleur ou mauve et ainsi de suite. C'est la tendance de l'été. Et donc là, vous vous retrouvez avec un prénom, typiquement Gabin, Romy. Alors, c'est pas que votre enfant aura trois Gabin ou trois Romy dans sa classe, ça n'existe plus. Mais dans la cour de récréation, il y en aura plusieurs. Voilà.
Qu'est-ce que vous pensez, Baptiste Coulmont, de ces parents qui inventent des prénoms, créent des prénoms uniques pour leur enfant? Qu'est-ce que ça raconte?
En fait, ça raconte qu'aujourd'hui, dans de très nombreuses interactions, au travail, à l'école, mais même quand on rencontre des amis ou des amis d'amis pour la première fois, on se présente par le prénom. Avant, on se présentait par le nom de famille. Le nom de famille, il pose aucun problème. Parce qu'ils sont très très rares, même Dupont, Lefebvre, dans un groupe de 50 personnes, il n'y a pas de Dupont. Mais il peut y avoir deux Kevin, deux Cédric, etc. Et donc en fait, cette nouvelle fonction donnée au prénom, d'identifier un individu, elle pousse les parents à choisir des prénoms plus rares, parce que sinon l'enfant, il n'est pas identifié juste dans un collectif de travail de 25 ou de 50 personnes. Donc ce n'est pas juste une recherche de l'originalité pour l'originalité, c'est parce que les parents disent, mais je veux que mon enfant qu'ils ne soient pas deux dans la même classe ou deux dans la même cour de récréation. Donc là, on a une pression à la rareté par un changement de fonction donné au prénom.
Claire Tabarly-Perrin.
Donc la question à se poser, c'est effectivement, l'enfant va vivre au quotidien, l'enfant, puis l'adolescent, puis l'adulte, va vivre au quotidien avec un prénom rare qui ne s'écrit pas forcément. Donc il va falloir qu'il l'épelle tous les jours. Et un prénom un petit peu... un petit peu inventé, un petit peu, il va falloir qu'il l'explique tous les jours. Or, d'une certaine façon, sans faire de la psychologie de bazar, l'expliquer tous les jours, c'est un peu justifier son existence. Et se justifier tous les jours, c'est quand même un peu pesant. Et puis, on peut avoir, à certains moments de son existence, certains moments de sa vie quotidienne, envie de discrétion, envie de pas avoir tout le temps les feux braqués sur soi.
Et ça peut pousser à changer de prénom.
Oui.
Quand on a ce prénom très rare qu'il faut épeler tous les jours, Baptiste Coulmont.
Alors, pour des raisons très statistiques, les prénoms très rares sont très rares. Il y a peu de changements de prénoms. Mmh. Donc, dans les faits, il y avait peu de personnes avec des prénoms très rares qui demandaient en changer. Les changements que j'ai vus, c'était plutôt des gens qui disaient « j'ai un prénom très commun ». On est 50 000 sur Facebook à s'appeler Marie-Bernard. Je reçois des lettres de Marie-Bernard que je connais pas. Donc, bah, si je pouvais m'appeler Marie-Ségolène Bernard, au moins, je serais presque sûr d'être toute seule. Donc, c'était plutôt ça que j'ai vu que la question de la rareté.
Alors, rappelons que depuis une grande loi sur l'état civil votée en janvier 1993, il est beaucoup plus simple de donner à son enfant le prénom de son choix, à condition qu'il ne porte pas préjudice à l'enfant.
On peut donner le prénom de son choix. Le prénom de son choix sera inscrit à l'état civil. Si l'officier d'état civil pense qu'il y a un problème, il devra saisir le juge. Mais les parents ont un droit entier à avoir le prénom qu'ils ont choisi inscrit sur l'acte de naissance. Et après, il peut y avoir... Et donc, en fait, ce que font les parents qui pensent qu'il y a un problème, c'est qu'ils établissent très très vite une carte d'identité pour l'enfant avec le prénom qui sera probablement supprimé après, pour assurer l'identité voulue.
Que dit la loi actuellement sur le changement de prénom ?
Eh bien, depuis 2017, le changement de prénom est déjudiciarisé, c'est-à-dire que vous allez, ça ressemble beaucoup plus à la déclaration du prénom de son enfant, même s'il faut justifier de certaines raisons pour pouvoir en changer. Mais on fait la demande non plus à un juge, mais à l'officier d'état civil, soit de son lieu de résidence, soit de son lieu de naissance.
Allez, dans un instant, on s'intéresse à ceux qui changent de prénom car ils ne correspondent pas à leur âge, à leur tête, à leur genre ou parce qu'ils subissent des discriminations liées à l'origine. Ce sera après avoir écouté Arctic Monkeys, Fake Tales of San Francisco.
So all that's left is the proof that love's not only blind but deaf. We'll be right back.
Là, vous êtes bien, Julien Bisson, avec les Arctic Monkeys. Hein.
Eh oui, ça me rappelle ma vingtaine.
Fake Tales of San Francisco.
Non, Pierrot.
Grand bien vous fasse.
Pas trop dire de m'appeler Ferdinand.
Ali Rebéi.
Oui, mais on ne peut pas dire mon ami Ferdinand.
Sur France Inter.
Pourquoi changer de prénom? Avez-vous déjà eu envie d'en changer? Quel rapport entretenez-vous avec lui? Je vous propose d'écouter Léa Salamé, qui explique au micro de Guillaume de Monjou sur la chaîne du Figaro pourquoi elle a changé de prénom.
Hala était mon premier prénom.
Hala,
par lequel
vous aviez grandi, voilà, au Liban et en France.
Voilà. Et je change le prénom. En fait, j'ai 13 ou 14 ans. Et au moment où je change d'école, je dis à ma mère, je vais changer l'ordre. Je vais mettre Léa Hala. Et donc, j'ai changé le prénom. Et ça a été Léa Hala. Et là, sur ma carte d'identité, si vous voyez, c'est Léa Hala. Parce que j'ai voulu absolument garder mon prénom libanais. En fait, je disais à 15 ans, c'était à ce moment-là que ça me faisait souffrir. J'ai mis du temps à comprendre que ça allait être ma force, en fait. Parce que, croyez-moi, ma carrière, je la dois aussi à cette identité-là multiple. Mais je disais à mes parents, à mon oncle, je disais, putain, mais on est quoi? Parce qu'on est français, mais en même temps, on est libanais. Donc on est libanais, donc on est arabe. On est arabe, mais en même temps, on est chrétien. Et mon oncle m'avait dit, mais pourquoi tu le prends comme des trucs qui sont contre? Il m'avait dit, vois-le comme un millefeuille. Oui, tu es à la fois libanaise, arménienne, française, chrétienne, et accepte tout ça.
Léa Salamé, au micro de Guillaume de Monjou, sur la chaîne du Figaro en 2023. Que vous inspire cet extrait, Baptiste Coulmont? Je rappelle que vous êtes sociologue, Claire Tabarly-Perrin, que vous êtes la co-autrice de l'Officiel des prénoms. Baptiste Coulmont.
Bah quand même, l'injonction à accepter des identités qui sont des identités héritées. La manière dont elle le raconte, c'est accepte-le. Et c'est pas, tu es libre de choisir l'identité que tu veux, si tu as pas envie d'être française, pas envie d'être arabe, pas envie d'être arménienne. Donc là, il y a vraiment les parents, en tout cas la manière dont elle le raconte, ses parents se sentent obligés de transmettre quelque chose, et sous la forme d'une injonction. Je pense pas que ce soit le cas partout. Il peut y avoir des parents qui disent non.
Claire Tabarly-Perrin.
Alors, ce que je note aussi, c'est qu'elle a opéré ce changement à 13 ou 14 ans. Or, en fait, au moment de l'adolescence. Et c'est un moment, en fait, où on a aussi, on peut avoir envie de conformité, on peut avoir envie de ressembler aux autres. Et c'est finalement, ça arrive, ça peut arriver. Enfin, je pense que c'est peut-être pas arrivé à chacun de nous autour de cette table, mais ça arrive à certains adolescents au moment où ils partent en vacances, en colonie de vacances, au moment où ils vont à l'internat, en fait, de se faire appeler par un autre prénom. C'est comme un espèce d'avatar, comme une espèce de protection, en fait, ou d'essai. Il y a aussi un autre exemple, par exemple, c'est Édouard Louis, dans Eddie Bellegueule, qui explique que quand il est arrivé à l'internat, tout le monde l'a appelé Édouard, parce qu'il ne pouvait pas concevoir qu'il s'appelait Eddie. Et en fait, il a laissé tout le monde faire. Donc, l'adolescence et les changements comme ça de temporalité, c'est un moment où les changements de prénom viennent s'insérer.
Vous l'aimez, votre prénom, Baptiste Coulmont?
Alors, quand je suis né, il y a maintenant plusieurs dizaines d'années, en fait, c'était un prénom très rare. J'avais pas conscience qu'il était très rare, sauf qu'il y avait, j'en connaissais pas d'autres, des Baptistes. Et en fait, c'est un prénom qui a connu une petite mode à la fin des années 90 ou début des années 2000. Donc maintenant, je trouve qu'il y en a trop quand même.
Et vous?
Alors écoutez, moi j'ai eu des hauts et des bas avec mon prénom, puisque bon, Claire, c'est un prénom assez temporel, qui est un peu tout le temps ni à la mode, ni franchement, voilà, un prénom assez courant. Au moment de l'adolescence, j'aurais aimé avoir un prénom populaire, comme on dirait maintenant, c'est-à-dire que je rêvais de m'appeler Béatrice, parce qu'il y avait une Béatrice dans la classe qui était vraiment super. Maintenant, franchement, je l'aime beaucoup, et j'aime bien aussi sa signification, qui est pas du tout étymologique, mais donc la signification étymologique, c'est célèbre, donc c'est pas mon cas, mais en tout cas, Claire, j'aime cette idée de transparence qui finalement me correspond assez bien. Donc je pense qu'il y a cet exemple, c'est vraiment l'idée d'une appropriation du prénom, l'étymologie n'étant que symbolique, en fait.
Alors, il y a 129 000 Claires dans notre pays et 100 000 Baptistes. Hein, c'est quand même pas mal. Avant le disque, nous parlions du fait de vouloir porter un prénom authentique. Ce prénom authentique qui raconte ce que nous sommes en vérité. Depuis quand recherche-t-on l'authenticité? Et quand est née cette injonction à l'authenticité?
Alors, après la Révolution française, en gros, Napoléon met en place le Code civil, il autorise le changement de nom de famille, mais pas le changement de prénom. bizarre. Et donc, avant 1954-1957, il n'est pas possible de changer de prénom. Il y a des gens qui demandent à en changer, en disant ben, « je voudrais changer de prénom ». Et les juges disent ben, « non, mais en fait, vous n'avez pas à l'utiliser, ce prénom sur l'acte de naissance, vous n'avez pas à l'utiliser au quotidien ». Si vous voulez utiliser un autre prénom, allez-y. L'important, c'est que dans les actes officiels, vous utilisiez votre prénom de naissance. Mais après la Seconde Guerre mondiale, en fait, pour différentes raisons, la raison de l'intensité de la mode et le fait que les gens portent maintenant des prénoms vus comme ridicules, la question des discriminations, les possibilités de francisation, etc., font que il semble de plus en plus bizarre d'autoriser le changement de nom de famille et pas le changement de prénom.
Stéphanie nous écrit « J'ai toujours rêvé de changer de prénom. Les inconnus ont pourri mon adolescence avec leur sketch. » Louis-Émile nous écrit « J'ai changé de prénom pour des raisons de trop de Philippe dans mon milieu professionnel. Mon second prénom, Émile, est devenu mon prénom. Mais un jour, Émile Louis a débarqué dans les médias. Depuis, c'est pas un cauchemar, mais c'est assez rigolo. » Et puis Sandrine nous écrit « Je me prénomme Sandrine, j'ai 54 ans et j'ai été traumatisée dans mon enfance à cause de mon prénom. En classe de CM2, sur 24 élèves, il y avait 14 filles. Et parmi ces 14 filles, nous étions 6 à nous prénommer Sandrine. » Et c'est vrai, on a tous connu des classes où, en tout cas dans ma génération, il y avait 5 Christophe, 8 Frédéric, 5 Sandrine, Claire oui. Tabarly-Perrin.
Alors, ça se produit plus vraiment, parce que maintenant, si vous prenez les stars des prénoms, donc dans les Jade, Louise, c'est moins de 3000 naissances. Gabriel, c'est moins de 5000 naissances sur 700 000 naissances en tout. Donc, en fait, c'est 1% des naissances. Il y a vraiment une explosion du répertoire. Donc ça se produira plus. Ce sera dans la cour de récréation, mais pas dans la classe.
Et Baptiste Coulmont, nous recevons des questions sur l'envie de changer de prénom pour rompre un lien familial. Est-ce que c'est une raison légitime de changer de prénom pour justement rompre ce lien familial qui peut parfois être traumatique?
Il faudra montrer peut-être le traumatisme. Il est beaucoup plus simple pour changer de prénom d'apporter la preuve qu'on utilise au quotidien un autre prénom que le prénom qu'on a eu à la naissance. C'est pas vraiment nécessaire de faire appel à on va dire des diagnostics psychologiques liés au traumatisme. Mais le fait de rompre avec une partie de sa famille ou de vouloir se rattacher à une autre partie de sa famille, c'est une des choses que l'on voit quand on s'intéresse au changement de prénom.
Vous prenez l'exemple dans votre livre « Changer de prénom » de Christine, hein, qui découvre que son père a commis des attouchements sexuels sur sa fille, et elle supprime ses propres prénoms, par un nouveau qu'elle a choisi. Donc, elle s'appelait Christine, Simone Claudette, pour s'appeler désormais Alexandra, pour rompre avec ce père, ce grand-père incestueux.
Parce que... C'est des cas rares, mais comme le prénom est choisi par les parents, si les enfants souhaitent rompre totalement avec les parents et ce que sont les parents, changer de prénom, ça peut être l'aboutissement de cette volonté de rupture. Les parents ne sont plus les personnes qui ont donné le prénom.
On peut aussi vouloir changer de prénom car on n'a pas la tête de son prénom.
Il y a des gens qui disent ça, oui. En fait, quand il fallait justifier face à un juge, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui du changement de prénom, les personnes arrivaient, ils avaient travaillé pendant 6 mois, ils savent ce qu'ils veulent dire, etc. Et en fait, le juge dit « Non, mais ce que vous avez préparé, non, mais dites-nous ce que vous avez au fond de vous-même, lisez pas. » Et il y a des gens qui mobilisent le corps. J'ai pas la tête de mon prénom, ou alors qui se mettent à pleurer, qui disent que c'est difficile. Mais c'est quoi la tête du prénom? Alors globalement, c'est quand même des questions de couleur de peau et d'origine nationale, parce que les prénoms sont pas en eux-mêmes associés à une tête. Mais c'est justifier que le prénom colle et colle à un point tel que parfois il y a des
hiatus.
Des hiatus entre...
Mais on n'imagine pas en maternelle une petite fille de 5 ans s'appeler Georgette. On se dit... Enfin, une Georgette n'a pas la tête peut-être d'une petite fille de 5 ans. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui. Là, oui. En fait,
ou à l'adolescence.
Pour la petite fille de 5 ans, je pense qu'elle elle s'en apercevra pas.
Plus tard.
Mais plus tard, oui, elle s'apercevra qu'elle a un prénom qui est en décalage avec la mode. Ce décalage, il peut être bien vécu, mais quand les personnes commencent, en fait, à le cacher, à essayer de vivre avec un autre prénom, bah, se pose la question de la révélation du secret. Donc le secret, là, il est double. C'est avoir un prénom ridicule et avoir caché à des proches le prénom qui était à l'acte de naissance.
Claire Tabarly-Perrin.
Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le prénom, maintenant, c'est un peu comme le titre d'un roman. C'est-à-dire que c'est comme si des parents choisissaient le titre d'une œuvre. L'œuvre, c'est l'enfant. Donc les parents, ils rédigent l'incipit, ils rédigent peut-être les premiers chapitres de l'introduction, mais après, l'enfant, il vit avec ce roman à écrire, en fait. Et clairement, si on veut rester dans la métaphore du roman, bah, c'est pas pareil de s'appeler Fanny, Colomba, Pénélope, enfin voilà. Donc, il y a cette idée-là.
Et puis, Baptiste Coulement, le sexe est directement inscrit dans l'acte de naissance et indirectement dans le prénom.
Oui, parce que la très, 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 très grande majorité des parents choisissent un prénom qui est, de manière hégémonique, associé à un sexe. Alors, il y a quelques Philippe qui sont des filles, et on verrait le cas inverse, mais c'est très rare. C'est pas obligatoire. En France, il y a jamais eu d'obligation d'associer le prénom au sexe qui était déclaré à la naissance. Et du coup, ben parfois, pour des personnes qui sont arrivées en France à 20-25 ans et qui connaissent pas bien les habitudes qui donnent un prénom, ben ce prénom-là, alors je me souviens il y avait une fille dont le prénom était Sofiane. Alors, oui. Sofiane. Bon, pendant longtemps, elle était Sofiane. Et puis, à un moment, elle s'est aperçue que c'était un prénom de garçon et qui n'était pas, en fait, comme elle. Donc, elle a demandé à changer. Parce que, en fait, pas parce qu'elle avait un problème, pas parce qu'elle vivait mal les choses, mais juste parce qu'elle est. Chaque micro-interaction faisait qu'elle était associée. Ah, je pensais que tu étais un garçon, mais non.
Prenons le cas des prénoms épicènes, hein, aussi bien portés par des hommes que par des femmes, comme Dominique, Claude ou Camille. On peut vouloir lever l'ambiguïté et vouloir changer de prénom.
Oui, il y a des personnes qui ne se satisfont pas de l'ambiguïté, parce que on pense aux Camille garçons qui sont très souvent appelés madame et oui. Mais ces prénoms sont rares et donc ils sont aussi rares dans les.
Et évidemment, chez les personnes qui veulent changer de sexe ou de genre, il peut exister évidemment une tension entre le sexe génital ou genré et le genre du prénom.
Oui, surtout quand la vie entière de la personne se fait au masculin et que dès que il faut signer un chèque ou montrer une pièce d'identité, c'est le prénom féminin qui apparaît. Et donc quand l'État obligeait des formes de castration pour les personnes qui souhaitaient changer de sexe, le changement de prénom était une étape qui a été construite par les avocats militants et les associations trans comme une étape préalable pour essayer quand même de vivre en tant qu'homme ou en tant que femme avant les opérations chirurgicales. Aujourd'hui, c'est plus nécessaire d'effectuer ces opérations.
Yolande nous écrit, je m'appelle Yolande, j'ai 63 ans, pendant longtemps j'ai détesté ce prénom, si j'avais pu j'en aurais changé, la plupart des gens s'autorisaient à me coller un diminutif ridicule et j'en souffrais beaucoup, j'ai appris à faire respecter mon prénom dans son entier, j'ai appris à l'aimer, aujourd'hui ce prénom me va très bien et me correspond car il est original et agréable à entendre. Donc sur cette Yolande qui n'aimait pas forcément son prénom et qui n'aimait pas non plus le diminutif. J'imagine que c'était Yo-Yo, certainement.
Ah, je n'ai aucune idée.
Sans doute, j'imagine.
Le fait qu'elle n'ait pas changé de prénom, c'est le cas majoritaire des personnes qui n'aiment pas leur prénom. Changer de prénom, ce n'est pas facile.
Donc on peut aussi préférer, si on ne va pas jusqu'à la démarche de changer de prénom, d'utiliser un surnom ou un diminutif.
Il y a beaucoup de gens qui ont des surnoms. Ouais. Tous les Frédéric qui s'appellent Fred, les Samuel qui s'appellent Sam, les François-Xavier qui s'appellent FX. Oui, simplement, il peut y arriver un moment où, imaginons quelqu'un qui fait toute sa carrière sous le surnom de Sam, qui est invité dans un pays étranger parce qu'il est, je sais pas quoi, et que l'invitation mentionne juste Sam, quand il va arriver à la douane, les gens vont dire oui, mais en fait, l'invitation, c'est pas vous. Est-ce que vous pouvez plus justifier? Donc là, pour des personnes qui ont une activité publique, le problème peut se poser, pas un problème interne, mais un problème douanier, on va dire.
Claire Tabar-Lipérin.
Oui, effectivement, il peut y avoir des... Il peut y avoir des arrangements avec la réalité, des espèces de duplicité et qui font que ben on adopte un prénom. Voilà, il y a une espèce d'adoption d'identité.
Et parfois, pour revenir au diminutif, il s'impose. Moi, j'ai une sœur qui s'appelle Myriam. Nous l'avons appelée Mimi depuis qu'elle est toute petite. Elle a une quarantaine d'années aujourd'hui. Et il ne me viendrait pas à l'idée de l'appeler Myriam. Alors que dans ses interactions sociales, évidemment, dans son métier et chez ses amis, on l'appelle Myriam. Mais à la maison, on l'appelle Mimi. Il ne me viendrait pas à l'idée de l'appeler Myriam. Ou alors, ce serait très sérieux si on commençait à l'appeler Myriam.
Oui, et pendant longtemps, il était possible d'inscrire, alors peut-être pas un diminutif, mais un prénom d'usage sur la carte d'identité. Et depuis une vingtaine d'années, ce n'est plus possible. Ce qui a limité, en fait, les possibilités de jeu avec l'identité civile.
Vous, Julien, vous aimez qu'on vous appelle Juju ?
Ça dépend qui.
Alors, on peut aussi vivre son prénom comme un stigmate social. Je pense aux Kevin, aux Brandon, aux Allison, aux Jessica, qui ont pu vivre une forme de racisme social car ils portaient ce type de prénom qui renvoie à une classe sociale supposée populaire. Exemple donc avec les Kevin. Écoutons cet extrait du documentaire « Sauvons les Kevin ».
Depuis quelques années, je ne vous cache pas que je ne suis pas forcément très à l'aise dès que je dois donner mon prénom. Surtout en public ou quand il s'agit d'une rencontre professionnelle. Pour cause, je m'appelle Kevin. Normalement, vous avez ri, et c'est normal. Faut dire qu'il existe beaucoup d'articles, d'enquêtes ou de références sur le sujet. Vous avez forcément déjà entendu une histoire ou une blague.
Salut, c'est Kevin.
Les calculs sont pas bons, Kevin.
Les Kevin, on s'est fait à l'idée qu'on sera jamais des références, quoi qu'on fasse dans la vie.
Kevin.
Bonjour Kevin Fafourneau.
Bonjour.
Vous êtes directeur artistique et vous avez réalisé un documentaire « Sauvons les Kevin » qui sortira à la rentrée 2024, c'est ça ?
C'est ça, exactement, tout à fait.
On pourra le voir où ?
Alors, c'est en cours de réflexion, on est dans une recherche active de diffuseurs.
Voilà. Bon, ben c'est l'occasion de faire votre promotion ce matin.
Bien sûr.
Kevin Fafournou, de quoi souffrent tous les Kevin de France ? Quel est leur mal commun ?
Moi, je pense que c'est c'est des clichés, des stéréotypes qui sont très forts, en fait, qui sont très durs et qui persistent dans le temps, en fait, en l'occurrence. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pu vérifier à travers le nombre de témoignages que j'ai reçus et aussi par le nombre de micro-trottoirs que j'ai pu faire et interagir. Et je trouve ça fou, en fait, que la réponse, généralement, quand on demande quel est le pire prénom masculin en France, j'ai 7 personnes sur 10 qui me répondent Kevin. Donc, c'est dire.
Et vous avez récemment réuni à Paris 150 Kevin.
Oui. Alors ça, c'était plutôt pour effectivement le côté un peu humoristique, puisque mon film a vocation de détruire les clichés stéréotypes, mais a une bonne dose de second degré aussi, avec beaucoup d'humour. Donc du coup, l'idée de se rassembler, on va peut-être se rassembler entre nous et passer un bon moment. Et donc c'est ce qu'on a fait, et ça s'est très bien passé.
Claire Tabar-Lipérin, combien de Kevin en France ?
160 000.
À peu près. Ouais. Et il y a eu donc un pic dans les années 90.
Oui,
pourquoi ?
Il y a eu... Probablement deux films, Danse avec les loups de Kevin Costner et Maman, j'ai raté l'avion avec le protagoniste qui s'appelait Kevin. Et en 91, il y a eu 14 000 naissances de Kevin. Donc tout à l'heure, on parlait de Gabriel. Gabriel, c'est moins de 5 000 naissances. Donc en fait, c'est un prénom vraiment qui a connu un engouement incroyable et qui maintenant connaît un acharnement incroyable.
Et on va y revenir. Pic de popularité entre 1987 et 1994. Quand j'étais animateur de colo et de centre aéré à Toulouse dans les années 1990, j'ai croisé une flopée de Kevin à cette époque-là. Et c'est vrai qu'il y avait un stigmate. C'est vrai qu'entre animateurs, je me souviens, c'était la mairie de Toulouse. Ah, les Kevin, ils étaient, réputés, agités, agaçants, etc. C'était vraiment un vrai stigmate. Est-ce que vous l'avez ressenti, vous, ça, Kevin Fafourneau, quand vous étiez enfant, où on vous stigmatisait parce que vous appeliez Kevin ?
Non, pas réellement. Moi, j'ai pas réellement subi de ce genre de situation, même des effets de discrimination par rapport à mon prénom. Néanmoins, par le biais des témoignages que je reçois, il y a encore des gens qui en souffrent aujourd'hui. Je prends l'exemple d'un instituteur Kevin que j'ai rencontré il y a pas si longtemps que ça, qui m'évoque que pour une formation avec des élèves à problème, à discuter, le prénom qu'ils utilisent pour illustrer le propos, c'est Kevin. Et alors, là, il s'est un peu mis en travers, il a dit, mais attendez, non, stop, quoi, c'est bon, je m'appelle Kevin, je suis instituteur, tout se passe bien. Il y a un moment donné, on peut passer à autre chose aussi, quoi. Voilà.
Et comment est arrivée la disgrâce autour de ce prénom ?
Ça, c'est une très bonne question que Monsieur Baptiste Coulmont a répondu dans le documentaire, que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Je crois qu'il y a une émancipation des classes populaires qui a été plus ou moins mal vécue par les classes supérieures. Je crois qu'on c'est à peu près ça qu'on peut en dire, quoi.
Et puis les humoristes se sont inspirés de ce prénom pour s'en moquer. Je pense évidemment à Elie Semoun, que j'adore, qui invente la version féminine, donc Kevina. Et puis récemment, l'humoriste Inès Reg a remis les Kevin sous le feu des projecteurs.
Oui, je crois que c'est sans fin. Et puis comme c'est quelque chose qui parle au plus grand nombre, comme c'est un prénom qui a été massivement utilisé avec un vrai effet de mode, je pense que c'est quelque chose qu'on a tendance à connaître et à qui nous parle, en fait. Donc c'est, je pense que c'est assez facile. Et encore aujourd'hui, du coup, comme je centralise tout un tas de témoignages et de choses, de blagues qu'on voit, du coup, je vois que ça c'est perpétuel et que ça c'est sans cesse, quoi.
Kevin renvoie une certaine sociologie, une certaine réalité sociale, Baptiste Coulmont.
Oui. C'est un prénom qui n'a pas été choisi par les classes supérieures pour leurs enfants, alors même que c'est un prénom du calendrier catholique. C'est un prénom qui a été choisi pour différentes raisons par des parents qui auraient pu appeler leur enfant Brandon ou Jonathan ou Donovan. Il a été l'objet, parce que c'est le prénom qui à un moment était le prénom le plus donné en France, il a été l'objet de critiques on va dire de la bourgeoisie, pour parler rapidement, qui considérait que c'était un mauvais choix et qui critiquait aussi et surtout le fait que les classes populaires avaient abandonné l'habitude qu'elles avaient de reprendre, on va dire, des restes culturels, des prénoms que la bourgeoisie avait donnés quelques années auparavant. Donc c'était une forme de scandale pour... les classes supérieures.
Et pourtant, c'est un vieux prénom irlandais.
Oui, absolument, c'est un vieux prénom irlandais. Mais le phénomène du prénom repoussoir a toujours existé. Kevin, c'est vraiment frappant et très fort. Mais vous avez par exemple le prénom... dans le cinéma, vous pouvez avoir le prénom Tanguy. Mmh. Tanguy, c'était un prénom qui montait. Et puis bon, à la sortie de Tanguy, évidemment... Plus beaucoup de parents avaient envie d'appeler leurs enfants Tanguy. Il y a eu le phénomène Brice de Nice. Dans l'actualité, vous avez eu Charlie. Donc c'était un prénom qui était en forte hausse, puis après les attentats il a baissé, maintenant il remonte. On parlait tout à l'heure d'Émile Louis, vous avez le petit Grégory, enfin bon, il y a eu vraiment beaucoup de prénoms repoussoirs entre guillemets.
Kevin qui signifie beau garçon. Peut-on dire, Kevin Fafourneau, que de se moquer du prénom Kevin, c'est faire preuve de racisme social, de mépris de classe?
Oui, je crois que ça a clairement été évoqué par, pareil, Monsieur Baptiste Coumont qui m'a apporté des réponses, mais... Dès lors, j'ai également été voir aussi un avocat, Kevin, avec lequel on avait pu évoquer les différents témoignages que je lui ai apportés, dans lesquels on voit clairement une sorte de discrimination qui est identifiable sur deux facteurs. À mon avis, c'est le relation sentimentale et le relation professionnelle. C'est vraiment là où il y a un vrai problème.
Racontez-nous, tiens, sur l'aspect sentimental. Roger, par exemple, sur les sites de rencontres.
Ouais, on voit clairement un manque de réussite pour beaucoup de Kevin dès lors qu'ils affichent leur prénom, alors qu'il y a un résultat beaucoup plus positif sitôt qu'ils en changent. Donc déjà, c'est assez anecdotique. Et aussi, on a des exemples, comme un témoignage d'un Kevin qui me raconte rencontrer une fille lors d'une soirée, tout se passe très bien. Il y a un vrai atome crochu, il y a un vrai crush, hein, si je peux dire, et ils oublient de se donner leur prénom, et en fait, au final, la fille demande, mais au fait, c'est quoi ton prénom? Et elle répond Kevin, et limite, elle se lève et elle s'en va, quoi. Elle dit non, c'est pas possible, quoi. Donc c'est vraiment marqué, quoi.
Et puis, des discriminations à l'emploi également?
Oui, à l'emploi, en l'occurrence, j'ai un Kevin qui a évoqué le fait qu'il avait eu un entretien pour un DRH et celui-ci lui a répondu qu'ils avaient eu une très mauvaise expérience avec un Kevin par le passé et que c'était trop marqué et qu'il avait peur que ça se reproduise. Donc c'est quand même, voilà, c'est assez révélateur.
Vous, Kevin Fafourneau, vous avez eu envie de changer de prénom à un moment dans votre vie?
Non, j'ai pas eu envie de changer de prénom parce que j'ai beaucoup de second degré et que je peux rire de blagues qu'on entend, etc. Par contre, ça m'a donné l'envie de faire ce documentaire parce que c'est vrai que, en étant tout à fait honnête, moi, je ne suis pas très à l'aise de donner mon prénom dans des situations où personne ne me connaît, parce que je sais forcément qu'on va m'attribuer une étiquette. Mmh. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de déconstruire ces clichés, ces stéréotypes, pour essayer de montrer un petit peu ce qu'on vit, nous et Kevin, finalement.
Mmh. Vous parlez d'étiquette, on peut parler de stigmate, Baptiste Coulmont? C'est un peu fort ou pas?
C'est peut-être un peu large, parce que pour beaucoup de Kevin... là, les choses se passent bien. L'idée que c'est un prénom de mauvais goût, etc., ce sont des idées répandues dans une partie du monde social, mais pas dans l'ensemble du monde social. Il y a beaucoup de parents qui ont donné le prénom Kevin et qui continuent à trouver que c'est un beau prénom et un joli prénom, et des personnes qui le vivent sans problème. En revanche, quand il y a une forme d'ascension sociale, comme c'est le cas peut-être pour Kevin Fafournou ou d'autres, ça peut être difficile parce que c'est entrer dans des mondes dans lesquels le prénom est mal vu.
Julien Bisson.
Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des prénoms qui sont marqués socialement de façon un petit peu péjorative, comme les Dylan et les Jennifer d'hier, ou est-ce que la fragmentation des prénoms fait que les choses ont changé?
Il y a quand même les prénoms arabes ou musulmans qui, eux, font l'objet d'une discrimination massive, et qui en plus sont associés parfois à des caractéristiques en termes de couleur de peau ou d'autres, qui sont là beaucoup plus difficiles, qui sont des prénoms qui n'ont pas été pris pour leurs enfants par des parents qui n'ont pas d'origine, on va dire, d'Afrique du Nord ou d'Afrique, alors que les petites Julia et les petits Loïc ont pu être donnés par des parents qui n'ont rien de breton ou rien d'italien. Donc là, il y a quand même un belle différence.
Et Claire Tabarly-Perrin, dans l'Officiel des prénoms, il y a des prénoms de toutes origines.
Oui, de toutes origines. Et c'est vrai que si on regarde les top 20, on s'aperçoit qu'il y a, notamment chez les garçons, ce qu'on appelle, nous, des prénoms multiculturels, en fait, qui sont des prénoms reconnus dans les trois textes, les trois grands textes religieux. Vous avez Adam, vous avez Aaron, vous avez Isaac, Gabriel. Enfin, ces prénoms-là, en fait, sont une façon pour les couples aux cultures mixtes de ne pas renier leurs origines et en même temps d'adhérer à...
Merci beaucoup Kevin Fafournou. Donc on pourra voir votre documentaire Sauvons les Kevin à la rentrée. Vous êtes encore en recherche de diffuseurs, c'est ça?
C'est ça, exactement.
Donc appel aux diffuseurs ce matin. En tout cas, c'est un documentaire très prometteur. Sauvons les Kevin.
Merci.
10h47, il est l'heure de retrouver Ma vie de parent de Julien Bisson.
France Inter.
C'est que sur les reproches, vous. Hein. On est là pour tout, pour tout, pour tout.
Grand bien vous fasse.
Si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants, après tout, pourquoi pas?
Salut!
Merde!
Alors, mon cher Julien, est-ce que vous-même, vous avez voulu changer de prénom?
Alors oui, mais pas parce que je trouvais le mien ridicule. Non, c'était plus parce que, comme on l'avait dit tout à l'heure dans l'émission, dans mes classes à l'école, il y avait déjà 4 Julien. Vous y ajoutez 3 Nicolas et 3 Mathieu, et vous pouvez vous rendre compte que les parents des années 80 n'ont pas remporté la palme de l'originalité. D'ailleurs, je me souviens que c'était compliqué dans les premiers moments du téléphone portable, quand on n'enregistrait pas encore 20 infos pour chaque contact, on se trompait toujours de numéro. Allô, Julien? Ouais, t'es Julien P ou Julien C? Ah non, t'es Julien B, oui c'est ça, pardon. Attends, il y a Nico P qui m'appelle aussi. Ah non, moi c'est Nico M, vous voyez le genre. Donc je comprends la quête d'originalité des parents d'aujourd'hui et qui voudraient que leur enfant soit unique, même si à la fin le risque c'est quand même qu'il y ait 4 Tiffen dans la classe de CPA à écrit avec 4 orthographes différentes.
Et alors comment avez-vous choisi le prénom de votre enfant qui est actuellement en régie avec nous?
Eh bien bonne question mon cher Ali, en faisant la première erreur à ne pas faire, c'est-à-dire en demandant l'avis des proches. Vous pouvez être sûr que c'est le meilleur moyen de vous dégoûter d'un prénom que vous aimez bien. Non, parce qu'à part, après la naissance, à part une tante un peu acariâtre ou, si vous avez appelé votre gosse Al Capone ou Clitorine, personne n'osera vous dire « Gaston, non, pas terrible, t'es sûr? Il n'est pas encore temps de changer ?» Notez que j'ai rien contre les Gastons, hein. J'ai moi-même un ami qui s'appelle Gaston, donc pas de procès d'intention. Mais si vous confiez vos idées avant la naissance, alors là, tout le monde va vous donner son avis. Les amis, les parents, votre patron, c'est la porte ouverte aux commentaires et aux mauvais conseils. En l'occurrence pour nous que le prénom qu'on avait choisi spontanément était trop féminin et qu'il fallait en changer. Donc on s'est lancé dans la quête du prénom idéal, à base de listes individuelles, notes sur 10, moyenne pondérée, optimum de Pareto, pour finir par aboutir à un prénom parfait, validé par la science. Donc mon fils s'est appelé Nino. Au moins pendant les 2 derniers mois de la grossesse, avant que le doute ne ressurgisse dans l'autolib qui nous menait à la maternité. Je vous passe les détails, on a changé au dernier moment, on est revenu au choix initial, on s'est juste écharpé sur les deuxièmes prénoms. Moi je voulais Périclès, elle voulait Solal, finalement ce sera François et Alain, les 2 grands-pères, comme quoi nous non plus, on n'est pas vraiment dans l'originalité.
Bon, ça ne dit pas comment ne pas se tromper de prénom pour son enfant.
Oui c'est vrai, pardon. Alors déjà, en lisant tous les articles consacrés aux pires prénoms donnés chaque année aux enfants, le web en est rempli. Si le vôtre est figure, c'est sans doute que vous êtes sur le point de vous planter. Et je m'excuse par avance auprès des parents des petits Benjapol, Merci Mireille, Nutella, Patchouli, Lola Poupoune, Lucifer ou Abstinence.
Ah bon ?
Tous des prénoms.
C'est authentique ?
Tous des prénoms authentiques. On sent bien qu'ils partent pas tout à fait avec le même projet de vie. Ensuite, en veillant à l'écho avec votre propre nom de famille, on évitera les allitérations un peu trop marquées, type Monique Lanique, c'est pas un cadeau à lui faire, ou les effets de sens. Si vous appelez Vaisselle, n'appelez pas votre fille Aude. Je laisse le temps à Ali de faire l'inversion. Ouais. Dans la même idée, j'aime bien les doubles initiales. Si j'avais pu, j'aurais essayé avec mon fils. Mais le choix est assez restreint avec les B. Et Bob Bisson, je ne voyais pas beaucoup d'avenir à part servir le pastis ou faire barbouze en Afrique. Mais si votre nom de famille commence par S, peut-être vous pouvez vous passer de la double initiale. Remarquez, ça marche d'ailleurs avec d'autres initiales. Je vous laisse deviner lesquelles. Méfiez-vous aussi des orthographes un peu hasardeuses. Anna avec un seul N, pour faire plus court, ça va condamner votre fille à toute sa vie à s'appeler Anna avec un seul N, ce qui est loin d'être court comme prénom. Et si après tout cela, vous avez encore des doutes, eh bien vous pouvez toujours regarder le film Le Prénom. Pas sûr que vous y trouverez des idées, mais au moins vous aurez l'occasion de rire de nos prétentions à incarner quelque chose, à charger notre enfant d'une signification dès son nom de baptême. Et ça, pour le coup, c'est pas prêt de changer.
Claire Tabarly-Perrin, vos conseils pour choisir un bon prénom?
Pas
si tant est qu'il existe un bon prénom.
C'est ça, il n'y a pas de bon ou de mauvais prénom. Ce qui est important, c'est la discussion jusqu'à l'arrivée à la maternité. Donc que le prénom soit un compromis entre les parents, ça c'est important. Et après, moi ce que je dis toujours, c'est que le prénom, ça doit être une histoire. On parlait de titre de roman tout à l'heure, mais il faut pouvoir raconter le prénom à l'enfant. Donc... si on prend par exemple les prénoms mythologiques qui ont plutôt la cote en ce moment, vous prenez une Cassandre. En soi, Cassandre, c'est celle qui annonce les mauvaises nouvelles et qui est jamais crue. Bon, bah c'est une lanceuse d'alerte. Donc vous prenez Atlas, le pauvre, il a le poids du monde sur ses épaules. Bon, bah c'est quand même un titan, c'est quand même une étoile. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi une façon, dans le dialogue avec l'enfant, après, de lui raconter pourquoi on l'a appelé comme ça. Et ça, ça permet à l'enfant de s'approprier son prénom.
Merci Julien Bisson. Dans un instant, on s'intéresse à toutes celles et tous ceux qui ont choisi de franciser leur prénom pour diverses raisons. Ce sera juste après avoir écouté Solane qui interprète Rome.
Je me sens comme un agneau qui dit pardon au loup d'avoir été trop lent à lui offrir son cou, d'avoir pris trop de place, d'avoir trop résisté, d'avoir vu sa robe de rouge s'attacher. Cette jungle me doit des mea culpa, l'appel à marcher entrera autour et je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Non, je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Mais c'est une chienne. Se pose sur ma cuisse. Cette ville me doit des mea culpa, la chaîne à marcher entre les rois qui tuent les reines. Et je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Non, je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Mais c'est une chienne.
Interpréter Rome.
Il s'appelle Juste Leblanc.
Ah bon, il n'a pas de prénom.
Grand bien vous fasse.
Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom et c'est juste son prénom.
Ali Rébéi.
Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste.
Oui.
Eh bien, lui, c'est pareil, c'est juste.
Sur France Inter.
Pourquoi changer de prénom, c'est notre thème ce matin.
Quand est-ce qu'on vous a appelé Antoine ?
Le 19 novembre 96, je me rappelle très très bien de cette date. C'est la date à laquelle j'ai signé mon contrat de travail. Et mon chef me dit, il faudra changer de prénom. Je deviens Antoine entre 9h du matin et 17h. Première fiche de paye, je vois apparaître Mohamed Antoine. Et j'ai été appelé dans ma fiche de paye Mohamed Antoine jusqu'au dernier jour. Les billets d'avion étaient émis au nom d'Antoine.
Sous ce prénom, il gravit les échelons et devient l'un des meilleurs commerciaux de l'entreprise.
On vous remet un certificat, vous posez avec d'abord le PDG, avec le reste de l'équipe, et on fait des belles photos souvenirs comme ça. Et tout ça fait... au nom d'Antoine. Mais c'est Mohamed qui l'a fait.
extrait du 19-20 diffusé sur France 3 en 2020. Baptiste Coulement, quelles sont les raisons, les principales raisons de changer de prénom avec ce désir de francisation ?
Alors la francisation, c'est une procédure qui existe quand on prend la nationalité française depuis l'après-guerre. Donc la première question qui est posée au candidat à la naturalisation, c'est « voulez-vous franciser votre nom et votre prénom ?» avant même qu'on demande le nom et le prénom de la personne. Donc il y a un peu une incitation. Alors il y a relativement peu de naturalisés qui changent de prénom. Je pense que ça, on doit être à quelques pourcents, 5 ou 6%. Là, après, vous avez parmi les personnes qui demandent à changer de prénom, des gens qui ont un prénom qu'on pourrait qualifier de prénom étranger parce que c'est pas des prénoms qui étaient courants en France, on va dire, au début du XXe siècle, et qui veulent un prénom français. Ces personnes-là n'ont pas besoin de dire « je suis discriminé ». Et en plus, c'est difficile de dire à un juge, à un représentant de l'État, à un procureur « je suis discriminé par la société française ». Ils vont vous dire « mais non ». En fait, il suffit de dire « je veux m'intégrer à la communauté nationale, je m'appelle Mohamed, je veux devenir François ». Et cette raison est une raison légitime. Donc, dans les dossiers pour changement de prénom, en fait, les gens n'ont pas besoin de dire la vérité des raisons pour lesquelles ils changent de prénom. C'est beaucoup plus facile de dire « je veux m'intégrer à la communauté nationale » parce que c'est une sorte de raison officielle, ils n'ont pas besoin d'y croire. Et c'est environ 35% des demandes, un tiers des demandes.
Et puis changer de prénom, ce n'est pas forcément par attachement national, c'est aussi par pur pragmatisme. Oui. On recherche un emploi, on a peur d'être discriminé parce qu'on s'appelle Mohamed ou Aïcha, je ne sais pas. Oui. Donc on se dit, bon, ce sera plus simple si je m'appelle Christophe ou Léo.
Oui. Mais, en tout cas, dans les documents que j'avais pu consulter, les personnes n'avaient pas besoin de le dire. L'autre raison, elle est aussi liée aux unions mixtes, aux mariages mixtes. Quand tout le monde dans la famille s'appelle Catherine, Isabelle, etc., vous avez appelé vos enfants Léa et Paul, si vous êtes le seul à avoir un prénom étranger, pour une sorte d'unification, une partie des personnes qui demandaient à changer de prénom le justifiaient pour cette raison.
Oui, je reviens sur l'idée, on dit « comment tu t'appelles ?» C'est quand même, il y a l'idée du regard de l'autre, c'est un verbe réfléchi en fait. On ne s'appelle pas, ce sont les autres qui vous appellent. Donc il y a vraiment l'idée du regard de l'autre et donc de la discrimination forcément.
Julien ?
Moi je me demande si vous, Ali, vous avez eu envie de changer de prénom ou si votre prénom a été source de discrimination.
Alors, à titre personnel, non, je n'ai jamais songé à en changer, mais à l'école de journalisme, à l'Institut pratique de journalisme, il y a plus d'une vingtaine d'années, j'avais un professeur de télé, un rédacteur en chef adjoint à LCI qui m'avait conseillé de changer de prénom, de prendre un prénom européen et je ne l'ai pas écouté. Voilà, mais non, je suis très bien avec ce prénom, Ali. Bon, mais merci beaucoup. Hein, merci Claire Tabarly-Perrin. L'officiel des prénoms est publié chez First. Merci Baptiste Coulement, changer de prénom est publié aux presses universitaires de Lyon. Vos prochaines recherches, vos prochains livres, parce que vous êtes le sociologue des prénoms.
Ah, et sur les prénoms, des choses mais qui ne sont pas encore publiées. Sinon, j'ai travaillé, là, j'ai terminé une enquête sur l'émancipation des mineurs. Mm-hmm. Donc toujours des demandes adressées à la justice, mais pour des parents qui souhaitent que leur enfant devienne majeur avant l'âge.
Tiens, on a une poignée de secondes encore. Claire Tabarly-Perrin, quels sont les prénoms phares en 2024 ?
Alors c'est
garçon, fille.
Jade, Louise et Emma, et Gabriel, Léo, Raphaël.
Allez, demain, comment le sport raconte notre société.